Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 28 février 2025. En RDC, l'ONU évacue les familles de son personnel au Burundi. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko appelle les syndicats à suspendre les grèves.
Et ce qu'il appelle un pacte social pour que les gens puissent pendant quelque temps reporter, différer certaines revendications et ensuite pouvoir faire face dans un autre temps à la demande sociale.
Jean-Louis Correa, analyste politique, nous donnera les clés de l'appel du Premier ministre sénégalais dans la partie magazine. La Cour suprême de Namibie rejette la contestation de l'opposition concernant les élections. Donald Trump accueille aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour un accord sur les minerais stratégiques et la paix en Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. En raison de l'escalade du conflit dans l'est de la RDC, l'ONU évacue les familles de son personnel international du Burundi. Pour sa part, le président burundais Evariste Ndayishimiye tente de rassurer les diplomates malgré la présence signalée du groupe armé M23 à proximité de la frontière de son pays. Les détails avec Nani Talani.
L'ONU, à l'instar de nombreuses représentations, a autorisé la semaine dernière l'évacuation des familles de son personnel à Bujumbura, détaille une lettre du département de la Sûreté et de la Sécurité, tandis que le président burundais Evariste Ndayishimiye tente de rassurer les diplomates. Plusieurs avions ont été affrétés depuis. D'autres sont attendus pour mettre en lieu sûr ces familles et certains personnels non essentiels, a indiqué hier un responsable onusien sous couvert d'anonymat. « Nous agissons avec la plus grande discrétion pour ne pas vexer le gouvernement », a-t-il précisé, tout en soulignant qu'il s'agit de consignes qui s'appliquent partout lorsqu'il y a des risques sécuritaires. Depuis janvier, le groupe armé M23, appuyé par des soldats rwandais, a pris le contrôle de plusieurs régions de l'est de la RDC et poursuit sa progression vers d'autres zones. Des témoins ont signalé sa présence à environ 75 km au nord d'Uvira, près du lac Tanganyika, en face de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. D'autres habitants ont également rapporté le déploiement de troupes burundaises dans la zone.
Au Burundi même, des ONG demandent la libération de la journaliste Sandra Muhoza, condamnée pour atteinte à l'intégrité nationale. Elles accusent la justice de persécuter les voix critiques. La journaliste burundaise Sandra Muhoza, qui travaillait pour le média en ligne, La Nova Burundi, a été arrêtée en avril 2024. Au Zimbabwe, le journaliste Blessed Mlanga reste en sion après son arrestation pour avoir interviewé une personnalité critique du président Mnangagwa. Il est accusé d'incitation à la violence. Son arrestation est intervenue après des entretiens avec un membre du parti au pouvoir, la ZANU-PF, qui a suggéré que le président devrait démissionner, sinon la population va utiliser la loi comme elle peut pour qu'il parte. La Cour suprême de Namibie a rejeté aujourd'hui le recours du principal parti d'opposition contestant les résultats de l'élection présidentielle qui a porté une femme à la tête du pays à l'issue d'un scrutin chaotique. Les précisions de John Lydon.
Le 3 décembre, la commission électorale a proclamé la victoire de Netumbo Nandzindatwa, 72 ans, issu du parti au pouvoir, dès le premier tour avec 57,31% des suffrages. L'élection présidentielle et législative du 27 novembre a été prolongée à deux reprises pour des problèmes logistiques et techniques, notamment une pénurie des bulletins de vote. Le premier jour du scrutin, d'interminables files d'attente ont obligé certains électeurs à renoncer à voter après jusqu'à 12 heures d'attente. Le Parti des Patriotes indépendants pour le changement reprochait au président N'Golo Mbumba d'avoir outrepassé la Constitution en étendant les opérations de vote pour deux jours dans certaines régions. Mbumba agit sur le conseil de la commission électorale et la Cour suprême a conclu que c'était légal, a indiqué son président Peter Sivuté lors de la lecture du résumé de l'arrêt. La commission nationale électorale était compétente pour faire des recommandations et le président avait le pouvoir, comme c'est parfois le cas, de permettre à des électeurs qui, sinon, auraient été lésés de voter les 29 et 30 novembre 2024, a-t-il dit.
Le Gabon lance des missions de contrôle sur les chantiers. Avant la présidentielle d'avril, le général Oligui Nguema pressenti candidat, veut s'assurer de leur bonne avancée. Une douzaine de candidats ont déjà retiré leur dossier pour l'élection avec une procédure incluant test linguistique, contrôle médical et déclaration de biens. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko appelle les syndicats à suspendre un temps les grèves pour permettre au gouvernement de redresser la situation financière difficile du pays. C'était hier soir lors d'une rencontre avec les syndicats et le patronat. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Lors de cette rencontre au Grand Théâtre de Dakar, le premier ministre Ousmane Sonko a promis aux syndicats et au patronat un dialogue social sincère et transparent. Pour cela, Ousmane Sonko demande aux syndicalistes et aux patrons d'entreprise de privilégier la voie des négociations.
Nous demandons à chacun d'entre vous de mettre de côté les grèves, la rue et les contestations pendant un temps et nous mettre au travail. Nous ne vous demandons pas de nous laisser faire comme nous voulons, mais nous allons travailler ensemble et d'ici quelques temps, nous finaliserons ensemble ce pacte.
Les nouvelles autorités, élues en mars 2024, font face depuis plusieurs semaines à un climat social tendu marqué par des contestations des centrales syndicales qui menaçaient de décréter une grève générale. Elles dénonçaient des licenciements massifs et abusifs dans les entreprises et services de l'État, la fermeture de nombreuses entreprises, des violations des droits des travailleurs. La tension sociale est doublée de difficultés économiques avec un déficit budgétaire de 12,3% et une dette qui représente 99,67% du PIB. C'est ce qui est ressorti d'un rapport de la Cour des comptes publié début février sur la gestion des finances publiques du pays entre 2019 et 2024 sous l'ancien président Macky Sall. Le premier ministre Sonko a annoncé une série de mesures de rationalisation des dépenses publiques, dont la diminution du train de vie de l'État et un audit de l'effectif réel de la fonction publique.
Les dirigeants du Soudan du Sud attisent la violence et l'instabilité dans la jeune nation, selon un rapport critique des Nations Unies publié ce vendredi. L'État le plus jeune de la planète, riche en pétrole mais extrêmement pauvre, est miné par les luttes de pouvoir, la corruption et les conflits ethniques.
Lors de cette rencontre au Grand Théâtre de Dakar, le premier ministre Ousmane Sonko a promis aux syndicats et aux patronats un dialogue social sincère et transparent. Pour cela...
Voilà, la deuxième partie du journal, la partie internationale. Volodymyr Zelensky est à la Maison-Blanche pour une rencontre avec Donald Trump. Le président ukrainien a été accueilli par son homologue américain avec qui il doit signer un accord cadre sur des investissements communs dans les minerais, les hydrocarbures et les infrastructures des Ukrainiens. Alexandrine Ollognon.
Les deux dirigeants ont échangé quelques mots, puis brièvement posé pour les photographes, avant que Donald Trump n'entraîne son invité vers le bureau ovale, où ils doivent avoir un entretien. Une conférence de presse commune est ensuite prévue à 13h, heure locale. La délégation de Zelensky devrait signer un accord économique historique avec les États-Unis visant à financer la reconstruction de l'Ukraine dévastée par la guerre. L'accord cadre porte sur l'accès des États-Unis aux ressources du sous-sol ukrainien exigées par le président américain en compensation de l'aide militaire et financière versée depuis 3 ans. Ces dernières semaines, l'Ukraine et l'Europe ont suivi avec inquiétude le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui se sont parlé le 12 février et qui ont lancé des négociations pour mettre fin à la guerre. Quelques heures avant la rencontre entre Zelensky et Trump, l'Ukraine a affirmé que des soldats russes avaient lancé une attaque dans la région frontalière de Soumy, depuis celle voisine de Koursk en Russie, dont une petite partie est occupée par Kiev.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde l'administration Trump sur les effets dévastateurs des coupes claires dans les budgets d'aide humanitaire, affirmant qu'elles allaient à l'encontre des intérêts des États-Unis. Antonio Guterres a exprimé sa profonde inquiétude sur des informations reçues au cours des dernières 48 heures concernant des coupes dans les financements américains à des agences de l'ONU et des ONG d'aide humanitaire et au développement. Les États-Unis sont de loin le premier pays contributeur des Nations Unies. La secrétaire d'État britannique au développement international, Annelise Dodds, a annoncé sa démission aujourd'hui après la décision du Premier ministre Keir Starmer de réduire drastiquement le budget de l'aide internationale pour financer une hausse inédite des dépenses de la défense. Le Hamas a appelé aujourd'hui la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il prolonge le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza au moment où les médiateurs réunis au Caire doivent poursuivre leur pouvoir pourparlers. La première phase de la trêve qui a fait taire les armes depuis le 19 janvier doit en principe prendre fin demain samedi sans que les termes de la deuxième étape qui prévoit la fin définitive de la guerre aient été négociés. Après des semaines de blocage, Israël a envoyé jeudi ses négociateurs au Caire où ont commencé, selon le gouvernement égyptien, des discussions intenses. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
En marge d'une réunion des ministres des Finances du G20 hier au Cap, des dirigeants africains ont lancé une initiative préconisant des conditions d'emprunt favorables. L'ALDRI, l'initiative des dirigeants africains pour l'allègement de la dette, sera dirigée par 5 anciens présidents, un vice-président et un premier ministre. Les chefs d'État et de gouvernement ont déclaré que les coûts croissants de la dette grugent les fonds qui pourraient être utilisés pour mieux lutter contre la pauvreté et faire face à d'autres défis. En République démocratique du Congo, l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques a suspendu les exportations de cobalt pendant 4 mois afin de réguler l'offre sur le marché international confronté à une surproduction. Dans un communiqué, l'ARECOM se précise qu'une évaluation sera réalisée dans 3 mois pour décider de la levée ou non de la suspension. La République démocratique du Congo assure 70% de la production mondiale de cobalt, utilisée notamment dans l'industrie des véhicules électriques.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le tribunal arbitral du sport déclare que le maillot de la RS Berkane avec la carte du Sahara occidental est une violation des règles.
Oui, les maillots de football représentant le Sahara occidental contestés comme faisant partie du Maroc ont violé les règles contre les messages politiques. C'est ce qu'a déclaré le tribunal arbitral du sport qui confirme ainsi l'appel de la Fédération algérienne de football qui contestait la décision de la CAF. En effet, l'instance africaine du ballon rond avait autorisé en avril 2024 le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane à porter des maillots sur lesquels figurait la carte contestée. Le litige a débuté lorsque des joueurs berkanis se sont vus confisquer leurs maillots à l'aéroport d'Alger avant un match contre le club algérien de l'USM Alger. La CAF s'était rangée du côté du Maroc, ce qui a conduit l'Algérie à faire appel. La décision du tribunal arbitral du sport intervient alors que le Maroc se prépare à accueillir la CAN cette année et la Coupe du Monde de 2030.
Basketball, ici en NBA, les Warriors s'imposent en Floride avec un Stephen Curry magique.
Un panier au buzzer réussi depuis son propre camp, 12 tirs primés et 56 points au total. Stephen Curry a fait le show et a permis à ses Warriors de battre le Magic d'Orlando 121 à 115. Golden State, 7e à l'Ouest, signe sa 5e victoire du rang. Auteur de son 14e match à plus de 50 points et de sa 26e rencontre à au moins 10 paniers longue distance inscrits, Curry s'est dit béni de jouer au basket, de profiter de la compétition, de la créativité qu'elle engendre. Sans se montrer aussi impérial, LeBron James a aussi assuré le spectacle avec 33 points et 13 rebonds à domicile. Avec ses Lakers, vainqueurs 111-102 de Minnesota, les Lakers reprennent la 4e place grâce à cette 36e victoire. Dallas s'est imposé à Charlotte 103-96. À Milwaukee, Nikola Jokic a signé son 27e triple-double de la saison, 32 points, 14 rebonds et 10 passes décisives. Mais cela n'a pas suffi pour le pivot serbe et ses Nuggets, battus 121-112 par les Bucks. Avec cette 5e victoire en 6 matchs, Milwaukee est 5e à l'Est, tandis que Denver reste 3e à l'Ouest.
220 médailles défectueuses des Jeux Olympiques 2024 sont en cours de remplacement.
La Monnaie de Paris dit avoir reçu 220 demandes de remplacement de médailles signalées endommagées par des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024, soit 4% de la production totale. Plusieurs sportifs avaient partagé des photos de leurs médailles défectueuses sur les réseaux sociaux. L'Américain Nija Houston, qui a fini 3e aux épreuves de skateboard street, s'était par exemple plaint quelques jours après de la mauvaise qualité de sa médaille de bronze. Le Comité international olympique avait assuré le 13 janvier que le remplacement des médailles défectueuses était systématique. La Monnaie de Paris, chargée de la production et du contrôle qualité, préfère parler de médailles endommagées. Les médailles remplacées sont identiques à celles remises aux athlètes pendant les Jeux, ajoute la société.
Page des sports VOA Afrique, signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko appelle les syndicats à suspendre un temps les grèves pour permettre au gouvernement de redresser la situation financière difficile du pays. Lors d'une rencontre au Grand Théâtre de Dakar, Ousmane Sonko a promis aux syndicats et au patronat un dialogue social sincère et transparent. Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar le professeur Jean-Louis Correa, analyste politique.
Depuis quelque temps, notamment avec les médecins, chirurgiens, dentistes et également l'enseignement supérieur, que ce soit le personnel administratif, technique et de service et le personnel d'enseignement et de recherche, tous ces corps-là étaient entrés depuis quelque temps dans un mouvement de grève, de débrayage, etc. Et donc je pense qu'il fallait pour le Premier ministre appeler tout le monde à une discussion.
Le Premier ministre Ousmane Sonko a promis un dialogue de vérité et de transparence. À quoi faut-il s'attendre?
Ce à quoi il appelle les syndicats, mais également le patronat, c'est de faire une certaine pause dans les revendications, étant entendu que les constats qu'il a faits et que la Cour des comptes a confirmé sous certains égards, ces constats-là conduisent à une situation budgétaire extrêmement difficile. Et hier, il m'a semblé entendre le mot de banqueroute. En tout cas, il y a cette situation-là qui est faite. Et pour sortir le Sénégal de cette situation, il fallait justement procéder à certains ajustements et, comme il dit le Premier ministre, ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Et donc cela appelait un apaisement du climat social et ce qu'il appelle un pacte social pour que les gens puissent pendant quelque temps reporter, différer certaines revendications et même la mise en œuvre de certains accords trouvés sous Macky Sall, différer cette mise en œuvre-là afin de lui permettre, lui, de faire les ajustements budgétaires qu'il faut, stabiliser le cadre macroéconomique et ensuite pouvoir faire face dans un autre temps à la demande sociale.
Est-ce que cette pause des revendications des syndicats et du patronat, par exemple, va aider justement à faciliter la vie aux Sénégalais?
Je pense qu'il y a une dimension politique, une dimension économique dans votre question. Dans la dimension politique, avec la majorité politique qui accompagne le tandem Diomaye Faye Ousmane Sonko, je pense que l'idée qui est généralement acceptée, c'est de se dire, nous les avons élus sur la base de ces promesses électorales, et même si c'est difficile, qu'on leur laisse la possibilité de pouvoir mettre en œuvre, d'autant plus qu'ils ont peint un tableau budgétaire qui n'est pas des plus reluisants. Donc, d'un point de vue politique, ça s'entend de plus en plus de dire, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais il faut que l'on accepte de nous serrer la ceinture, les jours plus heureux adviendront plus tard. Maintenant, d'un point de vue économique, budgétaire, on peut se poser des questions sur les annonces, quelle est l'ampleur des difficultés, les solutions qui sont mises en œuvre, c'est-à-dire de procéder à un ajustement structurel qui ne dit pas son nom. Est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que la dette est soutenable? Est-ce qu'elle n'est pas soutenable? Est-ce qu'il faut réduire la dette à certains pourcentages du PIB? Donc il y a des options économiques qui sont ici prises en rupture avec ce que l'on connaissait préalablement. Et là, j'ai l'impression que le gouvernement veut véritablement procéder à un ajustement structurel, mais ajustement structurel qui n'est pas imposé d'ailleurs, qui est souhaité par nous-mêmes pour rendre conformes nos besoins à nos possibilités, à nos capacités financières. Quand je dis non, je parle du Sénégal, bien entendu.
Jean-Louis Correa, analyste politique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
L'opposition en Guinée-Bissau appelle à la paralysie du pays, contestant la légitimité du président Ambalo. Elle rejette son maintien au pouvoir avant les élections du 30 novembre. Pour une analyse de la situation, Alexandrine Ollognon a joint en France Vincent Fouché, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, CNRS.
Je dois dire que c'est difficile de trouver la base légale. On a théoriquement un mandat qui est échu. Alors l'argument du président, hein, c'est qu'il y a eu une contestation de son élection qui a pris plusieurs mois et donc que son mandat doit être prolongé jusqu'au fond à la fin de cette contestation, enfin ou à l'anniversaire de cette contestation. Sauf erreur, cette interprétation a été soutenue par l'organe qui fait office de Cour suprême en Guinée-Bissau, hein, le Tribunal suprême de justice. Mais c'est une interprétation discutable.
Donc c'est ce qui justifie le choix du mois de novembre pour les prochaines élections?
Oui, alors plus largement, le président, il a une difficulté au fond à construire une base politique. Hein. Il a des élections devant lui. Il a rompu avec une bonne partie de ses alliés les plus importants, et il est en train d'essayer de reconstituer une alliance qui lui permettrait, donc il espère qu'elle lui permettra de faire campagne et de remporter. Et sans doute que pour lui, prolonger au maximum le mandat lui donne un peu plus de temps pour se préparer. C'est aussi comme ça qu'il faut comprendre. Hein. On a un système qui fonctionne sans Assemblée nationale depuis presque 2 ans. C'est le président qui avait dissous l'Assemblée nationale. Bon, là aussi, hein, ça semble s'inscrire dans une stratégie pour au fond contrôler la vie politique à lui tout seul.
L'opposition a-t-elle une stratégie pour contester cette prolongation ?
Alors le problème, c'est qu'à Bissau, c'est assez difficile. Les tentatives de contestation, comme je le disais, hein, le président contrôle visiblement assez bien la Cour constitutionnelle. L'Assemblée n'existe plus. Le bureau de l'Assemblée est l'objet. Il y a 2 bureaux qui se font compétition, un bureau pro-présidentiel et un bureau pro-opposition. Le président a visiblement une relation assez étroite avec les forces armées. Il n'y a pas une grande tradition à Bissau de manifestation politique. Hein. La répression fonctionne assez bien, les mobilisations sont assez limitées. C'est très difficile pour l'opposition de savoir par où passer tant qu'on n'utilise pas des moyens illégaux qui ont quand même une histoire en Guinée-Bissau.
Il y a eu une mission de la CEDEAO dans le pays pour rencontrer les différentes parties. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO peut servir de médiation dans cette situation et peut arriver à un résultat ?
Alors la CEDEAO est au fond plus ou moins propriétaire, si l'on veut, de la crise politique en Guinée-Bissau depuis 2012, hein, depuis le coup d'État de 2012. Elle a eu du mal à s'imposer fortement. Elle a une petite force à Bissau hein, qui est revenue, qui protège les institutions théoriquement. Mais au fond, on l'a pas vraiment vu imposer des compromis ces derniers temps. Certains pays de la CEDEAO, notamment le Sénégal, hein, ont une proximité historique avec le président Mbalo. Il y a beaucoup de scepticisme. En tout cas, l'opposition est extrêmement sceptique et elle a quelques raisons de l'être hein, sur la capacité de la CEDEAO à pousser les choses.
Vincent Fouché, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France. La 29e édition du FESPACO a été ouverte samedi dernier à Ouaga. Parmi les films en compétition dans la catégorie fiction long métrage figurent Les Invertueuses, un film qui casse les codes et bouscule les standards sociétaux. Ce film de la Burkinabé Aïcha Chloé Boro met en lumière le destin de 2 femmes en quête d'autodétermination et d'émancipation malgré un contexte sécuritaire difficile. Des détails dans ce reportage de Gilles Dasda.
Au pays, mademoiselle.
Dans un contexte marqué par le terrorisme, Nati, une adolescente de 16 ans un peu rebelle sur les bords, porte un combat, celui de s'émanciper en tant que femme, tout en luttant pour que sa grand-mère devenue veuve puisse retrouver son amour de jeunesse.
Et puis je vois pas pourquoi elle aurait pas le droit.
Parce que ça n'existe pas, ça ne fait pas.
Les 2 femmes sont les héroïnes du film Les Invertueuses de la réalisatrice burkinabé Aïcha Chloé Boro.
En gros, le propos du film, c'est de dire que l'amour sentimental, le désir n'ont pas d'âge pour s'exprimer. Exprimer de façon belle et vertigineuse qu'on peut avoir 65 ans et aimer très fort et que c'est pas sale. Dans nos sociétés, on a l'impression que quand une femme atteint un certain âge, elle n'a plus le droit à certaines choses. Elle n'a plus le droit d'aimer, elle n'a plus le droit d'avoir du désir, sinon c'est sale.
Le combat de Nati pour le bien-être de sa grand-mère se déroule dans une situation de crise sécuritaire où la femme subit encore plus de dommages. L'engagement militant de l'adolescente va l'amener à s'engager auprès de l'armée pour lutter contre les groupes terroristes. Son ambition, montrer que la femme compte tout autant que l'homme, même en période de guerre.
On n'est pas plus peureux que les hommes. Toutes les places que la société va nous ouvrir, on va les occuper. Et ce film dit, on va pas attendre que la société nous ouvre des places. On veut occuper plus de place dans la société, y compris des places militaires, y compris des places pour défendre le pays. Et il faut arrêter de croire que chaque fois qu'une femme conquiert un espace, c'est un espace que l'homme perd. C'est faux. C'est juste un espace que la société gagne. Et c'est aussi le propos du film.
Avec ce film, Aïcha Chloé Boro est l'une des 2 Burkinabés en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga dans la catégorie fiction long métrage. Les joutes s'annoncent serrées, mais ses chances sont réelles selon Abraham Bailly, président de l'Association des critiques de cinéma du Burkina.
Aïcha Bourou, on la connaît dans le documentaire. On voit qu'elle arrive dans la fiction avec un excellent film. Il y a de belles images, c'est des belles prises. Il y a la direction photo aussi est très impressionnante. Les séquences de nuit et les séquences de jour, on voit que bon, c'est bien fait. Donc elle a son mot à dire dans ce festival.
Dans les rues de Ouagadougou, on espère que le trophée majeur reste au Burkina.
Cette année-là, nous allons remporter l'or là, ça c'est sûr.
Kevin Sou, conseiller en cinéma et audiovisuel, lui, croise les doigts.
Bien sûr, en tant que Burkinabé, quand même, c'est souhaiter en tout cas bonne chance à nos candidats.
La candidate Aïcha Chloé Bourou s'est dit sûre, elle va conquérir le jury.
Ce FESPACO est pour les femmes et pour le Burkina.
Après 2019, où elle avait été la première femme à remporter l'étalon d'or dans la catégorie documentaire.
Lors de la première réunion du cabinet de son second mandat, mercredi, le président Donald Trump a défendu les mesures prises par son administration pour réduire le gaspillage et la taille du gouvernement américain. Veronica Balderas-Iglesias de la VOA parle de l'impact de ces mesures et de la réaction des travailleurs fédéraux licenciés et des dirigeants démocrates. Le récit est de Nani Talani.
Entouré des membres de son nouveau cabinet, le président Donald Trump a défendu les réductions importantes des dépenses publiques décidées par son administration, affirmant avoir un mandat des électeurs.
J'ai été élu sur les impôts et sur beaucoup de choses, la frontière, mais aussi l'équilibre budgétaire et la remise en ordre de notre pays. Et c'est une grande partie de cela.
Monsieur Trump a salué les efforts rapides d'Elon Musk pour réduire la fraude et le gaspillage au sein du gouvernement. Lors de la réunion du cabinet de mercredi, le milliardaire de la technologie a déclaré aux journalistes que son département de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE, devait agir rapidement pour réduire le déficit de 1 000 milliards de dollars d'ici à l'année fiscale 2026.
Il faut économiser 4 milliards de dollars par jour, tous les jours, à partir de maintenant et jusqu'à la fin du mois de septembre. Nous ferons des erreurs. Nous ne serons pas parfaits. Mais lorsque nous ferons une erreur, nous la corrigerons très rapidement.
Les dirigeants syndicaux et les démocrates du Congrès s'opposent à la fermeture d'agences gouvernementales entières et à l'objectif de l'administration de réduire les effectifs fédéraux qui sont d'environ 2,4 millions d'employés civils. Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat américain.
On n'utilise pas de chalumeau, on n'utilise pas une hache à viande pour couper toutes les bonnes choses ainsi que les gaspillages, les fraudes et les abus. Aucun homme d'affaires intelligent ne ferait cela. Et je pense que ce qu'ils font est tout simplement scandaleux. Cela fait du mal aux gens.
Plusieurs employés fédéraux en période d'essai qui ont été récemment licenciés ont raconté leur histoire lors d'un webcast Zoom organisé par le représentant démocrate Rokena. L'avocat Michael Groner, qui a voté deux fois pour Trump, a été renvoyé du ministère de l'Agriculture.
Mon rôle était de m'assurer que les programmes fonctionnaient légalement et cela semble correspondre beaucoup plus à l'augmentation de l'efficacité du gouvernement et à la diminution du gaspillage du gouvernement. Je suis marié, nous avons une petite fille de 2 ans et nous attendons notre fils en avril. Nous étions assurés par mon travail.
Ces derniers jours, les scientifiques sont descendus dans la rue pour protester contre les coupes dans la recherche médicale et les licenciements. Le politologue Jonathan Hanson s'est exprimé sur l'impact des mesures de DOGE. Il s'est exprimé via Skype.
Les efforts déployés jusqu'à présent semblent être des mesures spectaculaires qui ne permettront probablement pas de réaliser d'importantes économies à court terme, mais qui nuiront à la capacité du gouvernement à long terme.
Jusqu'à présent, les réductions ne semblent pas avoir nui à Trump sur le plan politique, d'après les analystes.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Lionel Gaïma. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.